Bonjour, chers amis de l'Église de Villefranche, je vous salue tous de la part de Jésus-Christ, notre bien-aimé, Sauveur et Seigneur. J'ai le projet d'entamer une série sur l'Épître aux Éphésiens, dont je vais faire la première partie aujourd'hui. Je vous propose de lire donc quelques versets du chapitre 1er dans la version dite du semeur. Donc, Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet Esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Jusque-là. J'ai lu ce texte jusqu'au verset 14 afin que nous ayons une idée d'ensemble de la première partie de ce chapitre. Mais nous n'irons pas plus loin aujourd'hui que le verset 7, car vous allez le voir, cette lettre de Paul est extrêmement riche et dense. Cette épître de Paul fait partie de celle qu'il a écrite alors qu'il était en prison, probablement à Rome. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une expression qui revient à 4 reprises dans ces 14 premiers versets. Cette expression, c'est « la volonté de Dieu ». Et ce mot, nous l'avons dès le premier verset. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu. Si Paul peut se prévaloir de cette qualification d'apôtre, ce n'est en effet pas parce que les églises qu'il a fondées dans l'Empire romain l'ont élu à ce titre. Ce n'est pas non plus parce qu'il a été nommé à cette fonction par Jésus alors qu'il était sur cette terre, comme cela a été le cas pour les autres apôtres. On trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, versets 12 à 16, le récit de cette nomination des 12 apôtres. Je lis donc Luc 6, versets 12 à 16. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, Il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il appela Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui finit par le trahir. Vous avez remarqué que Jésus a choisi ces 12 hommes après avoir passé la nuit entière à prier. Et parmi les 12, il a aussi choisi Judas. Un texte étonnant se trouve en Jean 6, versets 70-71. Je lis ce texte. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12 ? Et pourtant, l'un de vous est un diable. » Par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des 12, qui allait le trahir. C'est bien étonnant, n'est-ce pas ? En effet, en fait, Judas a été choisi pour servir au plan de rédemption de Dieu, qui devait passer par la mort de son Saint-Fils. Et cela n'enlève rien à la responsabilité personnelle de Judas, qui a bénéficié, comme les 11 autres, de la compagnie et des enseignements de Jésus pendant 3 ans. En ce qui concerne Paul, il a été appelé aussi par Jésus lui-même à l'apostolat, mais du haut du ciel, lorsqu'il s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, où il se rendait pour faire arrêter ceux qui étaient devenus des adeptes d'une toute nouvelle religion, ceux qui suivaient les enseignements du Christ, ce que le bouillant pharisien Paul ne pouvait supporter. C'est donc avec cette autorité d'apôtre du Christ que Paul écrit cette lettre. Cette autorité lui a été donnée par Jésus lui-même, et donc ses écrits, inspirés par le Saint-Esprit, ont statut de parole de Dieu. Cela implique que nous devons les reconnaître comme tels, y compris certains passages qui nous dérangent peut-être un peu. Notons à ce sujet que l'apôtre Pierre lui a reconnu ce statut. En 2 Pierre 3, versets 15 et 16, Pierre écrit « Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi, pour leur propre ruine, des autres textes de l'Écriture. Selon la tradition des pères de l'Église, cette lettre a été écrite à destination des chrétiens d'Éphèse. Et de fait, dans le premier verset, Paul salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint et qui croient en Jésus-Christ. Dans la plupart des traductions modernes de la Bible, les mots « à Éphèse » sont mis par l'éditeur entre crochets. Pourquoi ? Parce que certains manuscrits ont cette mention des destinataires de la lettre, les Éphésiens, mais que d'autres manuscrits, tout aussi d'aussi bonne qualité, ne l'ont pas. De plus, on peut légitimement s'étonner que cette lettre ne mentionne aucun nom de ces chrétiens d'Éphèse parmi lesquels Paul avait enseigné pendant 3 ans. Alors que, par exemple, il mentionne une 20aine de noms dans sa lettre aux Romains, église dans laquelle il ne s'était pas encore rendu. Ces arguments font penser aux spécialistes qu'il s'agissait probablement d'une sorte de lettre circulaire adressée aux églises de la province romaine d'Asie. Paul a utilisé ce mode de communication, par exemple, en Colossiens 4, verset 16. Je lis ce verset, Colossiens 4, verset 16. Voilà ce que Paul écrit. Après avoir adressé ses salutations à un certain nombre de membres de l'église de Colosse, il écrit « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'église des Laodicéens et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. » Lettre d'ailleurs qui ne nous est pas parvenue, à moins qu'il s'agisse justement de notre épître aux Éphésiens. Cette lettre que nous avons sous les yeux est donc adressée à ceux qui font partie du peuple saint. Dans l'Ancien Testament, cette expression désignait les Israélites, le peuple choisi, mis à part par Dieu pour lui appartenir en propre parmi tous les peuples de la terre. À la fin de sa lettre aux Galates, Paul désigne ce peuple saint comme l'Israël de Dieu. Il y a donc une continuité évidente entre le peuple saint de l'Ancien Testament et celui de la Nouvelle Alliance, cette continuité étant le fait du choix de Dieu, comme nous allons le voir plus loin. Paul continue, il écrit donc aux chrétiens qui sont à Éphèse et qui croient en Christ. C'est là ce qui caractérise le nouveau peuple de Dieu, la foi en Jésus-Christ. Celui qui a écrit cette lettre en a fait l'expérience. Comme juif zélé pour la religion de ses ancêtres, il était farouchement opposé à cette nouvelle secte, née parmi des juifs, qui se réclamait de la foi en Jésus de Nazareth. Mais Jésus l'a appelé, et il est devenu, par la grâce de Dieu, un apôtre tout aussi zélé, mais dorénavant, pour la cause de Christ, qu'il a reconnu comme étant le Fils de Dieu. Et c'est grâce à cet appel de Dieu que nous devons à l'apôtre Paul l'implantation de nombreuses églises dans l'Empire romain de l'époque et la rédaction d'une grande partie de notre Nouveau Testament. Verset 2 de notre premier chapitre. Paul souhaite à ses lecteurs que la grâce et la paix leur soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Au-delà de l'aspect formel de cette salutation, il est bien vrai que nous avons besoin de la grâce de Dieu dans tous les aspects de notre vie et que la paix fait partie des biens les plus précieux de la foi chrétienne. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Paul bénit Dieu en retour de la bénédiction dont, avec tous les chrétiens, il est l'objet. Le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance bénéficiait de bénédictions terrestres dans la mesure où il était fidèle à sa vocation de peuple mis à part pour lui. Le nouveau peuple de Dieu, c'est-à-dire les païens dont nous sommes et les juifs, bénéficie de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste du fait de son union avec Christ. Dès ce verset 3, le Saint-Esprit est mentionné, et c'est lui l'administrateur de ces bénédictions accordées par le Père. Ces bénédictions nous sont accordées et appliquées du fait de notre union avec Christ. On retrouve donc là les trois personnes de la Trinité, les trois personnes de la divinité, à l'œuvre pour nous faire bénéficier de ces bénédictions. Un indice parmi d'autres, que le vrai christianisme est bien trinitaire. Vous savez que la doctrine de la Trinité a été niée dans certaines sectes au cours de l'histoire, et encore de nos jours par les témoins de Jéhovah par exemple. Verset 4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Choisis dès la fondation du monde. Dès avant la fondation du monde, pardon. Là, nos esprits limités perdent pied, il faut bien le reconnaître. Ce verset, parmi beaucoup d'autres, affirme la doctrine de l'élection dont les croyants sont les bénéficiaires. Cette élection, Paul la situe avant même la fondation du monde. Cela élimine bien évidemment tout mérite de notre part. Mais certains diront, je veux bien croire que Dieu m'a choisi, mais moi aussi j'ai choisi de suivre Christ. C'est tout à fait vrai, mais ce choix de notre part de suivre Christ est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous avons répondu par la foi aux sollicitations du Saint-Esprit. Rappelons-nous cette parole de Jésus rapportée en Jean 6, verset 44. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et Jésus a ajouté, « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » La doctrine de l'élection est donc bel et bien biblique. Beaucoup d'autres passages la soutiennent, et particulièrement le chapitre de l'Épître aux Romains, le 9e chapitre de l'Épître aux Romains. Les esprits les plus brillants de la chrétienté ont essayé de comprendre cette doctrine de l'élection sans vraiment y parvenir. Il nous convient d'être humbles et de l'accepter simplement, avec joie et reconnaissance. Mais vous avez noté que si nous sommes élus, c'est dans un but précis, pour être saints et sans reproche devant lui. Saints, les destinataires de la lettre de Paul le sont, de par leur union avec Jésus-Christ, comme on l'a lu dans le verset premier. Saints et irréprochables est une expression que Paul va de nouveau employer au chapitre 5 au sujet de l'Église. Dans ce passage, chapitre 5, versets 25 à 27, il emploie cette expression à l'occasion d'une exhortation qu'il adresse aux couples et particulièrement aux maris. Je lis ces versets. Quant à vous, maris, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Ça, c'est la traduction du semeur, littéralement, sainte et irréprochable. L'apôtre Jean utilisera aussi ce même adjectif de irréprochable au sujet des 144 000 qui se tiennent debout sur le mont Sion et qui portent sur le front le nom de l'agneau et de son père. Cela se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 5. Je lis ce verset. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche. C'est 144 000. Ils sont irréprochables. C'est exactement le même adjectif dans le texte original. Ces 144 000 représentent l'ensemble du peuple de Dieu, les saints de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau, l'Église, formant ensemble le peuple que Paul appelle l'Israël de Dieu en Galates 6, verset 16. Je lis ce verset, Galates 6, versets 15 et 16. Voilà ce que Paul dit à la fin de cette lettre. Peu importe d'être circoncis ou non, c'est-à-dire juif de race ou non. Ce qui compte, c'est la nouvelle création. Que la paix et la compassion de Dieu soient accordées à tous ceux qui suivent cette règle de vie et à l'Israël de Dieu. Ainsi, le peuple de Dieu dans sa totalité a été élu avant la fondation du monde pour être saint et irréprochable devant lui. Saint parce que ses péchés ont été définitivement effacés par le sang de Christ et désormais unis à lui, et irréprochable par le lavage continu de sa parole aboutissant à la perfection finale. Verset 5. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Littéralement, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est la deuxième fois que Paul mentionne la volonté de Dieu. C'est par cette volonté qu'il a été choisi pour être l'apôtre des nations, c'est par cette même volonté et en raison de son amour pour nous qu'il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, c'est-à-dire au moyen du sacrifice de sa vie pour le pardon de nos péchés. L'apôtre Jean écrit dans le prologue de son évangile, Jean 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont accueilli et qui ont cru en lui, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » Et Jean précise, ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Notre adoption est donc le résultat de l'amour et de la volonté de Dieu. Verset 6. « Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Les Israélites qui ont pu passer à sec le lit de la mer Rouge et qui ont assisté au retour des flots sur les Égyptiens, qui tentaient de les poursuivre pour les ramener à leur esclavage, ont chanté un cantique pour célébrer la gloire de la grâce de l'Éternel qui venait de les sauver avec une puissance incroyable. Pourquoi l'Éternel les a-t-il sauvés? Parce qu'ils étaient meilleurs que les Égyptiens? Certainement pas. Et d'ailleurs, la suite de leur exode vers la terre promise en fera la triste démonstration. Il les a sauvés parce qu'il les aimait et qu'il voulait faire d'eux un peuple d'adorateurs selon sa bienveillante volonté. C'est cela, la gloire de la grâce de Dieu que son peuple a célébrée après sa délivrance. De même, nous, l'actuel peuple de Dieu, la chère Église dont son Fils est le chef, nous pouvons, par lui, célébrer, nous aussi, la gloire de sa grâce. Verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Si on traduit littéralement, en lui, nous avons la rédemption par la vertu de son sang, le pardon de nos fautes. Le mot dans le grec traduit par « rédemption » était utilisé pour désigner le prix payé par un acquéreur au marché des esclaves. Nous étions en effet esclaves du péché et totalement incapables de nous délivrer nous-mêmes de cet esclavage. Nous bénéficions de cette rédemption, de ce rachat. C'est le sens du mot « rédemption ». Le verbe « avoir » dans ce verset est au présent, pas au futur, comme une sorte d'espérance. Nous l'avons réellement dès maintenant. Nos fautes sont pardonnées par la vertu du sang de Christ. Dieu ne les voit plus, mais il voit le sang de son Saint-Fils. Et de ce fait, sa juste colère contre nos péchés est définitivement apaisée. Le mot utilisé par l'apôtre pour parler du pardon de nos fautes est le substantif d'un verbe qui signifie « renvoyer au loin ». On a une belle préfiguration de cela dans le rite prescrit par Dieu du bouc Azazel, ou bouc émissaire, qui lors du grand jour des expiations était chargé par le grand prêtre des péchés du peuple et mené au loin dans le désert pour qu'il s'y perde. Chaque année, le peuple de Dieu était tenu d'observer ce rite. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit, au 9e chapitre de son Épître, verset 14, Hébreux 9, 14, « Christ s'est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. » Ces sept premiers versets de l'Épître aux Éphésiens affirment donc avec force que nous avons été choisis par Dieu afin qu'il nous adopte comme ses enfants, et cela par la seule volonté de Dieu. Nous avons là les deux premières bénédictions spirituelles parmi celles qui sont annoncées dans le verset 3. Ces bénédictions nous conduisent à louer la gloire de sa grâce dès maintenant et sans doute dans l'éternité, lorsque nous serons dans la présence même de notre Sauveur. Elles sont déjà merveilleuses, n'est-ce pas? Mais nous verrons dans la suite de cette lettre qu'il y en a encore bien d'autres. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse.